Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous ouvrirons ce journal avec une double rencontre prévue aujourd'hui autour du sort réservé à la province d'Idleb, l'ultime grand bastion djihadiste et rebelle de la Syrie où un désastre humanitaire imminent est à craindre. Quand les présidents iraniens, russes et turcs se retrouvent en sommet à Téhéran ce vendredi, les États-Unis convoquent de leur côté une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Décryptage dans ce journal avec Eric Biegala.
Et puis destination l'Irak également où des manifestations meurtrières ont lieu depuis plusieurs jours dans le sud du pays.
Et cette journée de vendredi pourrait d'ailleurs marquer une nouvelle escalade des manifestations sur fond de contestation sociale, mais pas seulement, nous dira Nabila Hamel.
En France, la classe politique poursuit sa rentrée, Thomas Cluzel.
C'est le cas aujourd'hui de Marine Le Pen à Châlons-en-Champagne, mais aussi de l'eurodéputé socialiste Emmanuel Morel, lequel espère préparer à Marseille une future union des gauches. Explication à suivre de Sophie Delpont.
Une histoire de cartel également, s'agissant de matériel électrique.
Oui, les fabricants et distributeurs Legrand, Rexel, Sonepa et Schneider Electric ont tous été l'objet hier de perquisitions. Ils sont sous d'entente illicite.
Voilà 2 ans maintenant que les droites dures, protéiformes, prospèrent partout en Europe.
Et à 2 jours des élections législatives organisées en Suède, nombreux sont ceux à craindre une nouvelle percée nationaliste et xénophobe.
Enfin, dans le cadre de votre page hebdomadaire consacrée à l'Europe, c'est vendredi, votre invité, Philippe Lamberts.
Eurodéputé belge et coprésident du groupe écologiste au Parlement européen. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec Bertrand Tavernier que nous gardons précieusement avec nous, président de l'Institut Louis Lumière de Lyon. Nous allons parler avec un deuxième invité, le producteur Emmanuel Chaumet, de la crise du financement du cinéma et autres réformes.
Merci et à tout à l'heure. Le sommet de la dernière chance, l'expression paraît aujourd'hui tellement galvaudée qu'elle en viendrait presque à intégrer tout le contraire, une manière faussement optimiste de signifier que tout espoir a définitivement disparu. Tandis que l'Iran, la Russie et la Turquie se retrouvent aujourd'hui à Téhéran pour sceller le sort de la province rebelle d'Idleb, présentée comme la dernière zone à reconquérir par le régime de Bachar el-Assad, les États-Unis, eux, ont choisi de convoquer pour le même jour une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre en garde contre les conséquences d'une probable catastrophe humanitaire. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Thomas.
2 réunions donc, ce qui ne signifie pas pour autant 2 fois plus de chances de réussite, tant cet agenda diplomatique démontre au fond et à lui seul combien sur ce dossier syrien, personne ne partage aujourd'hui les mêmes ambitions et encore moins les mêmes préoccupations.
C'est vrai, et même sur la question humanitaire par exemple, sur laquelle tout le monde a priori pourrait être d'accord, tous jurant bien sûr vouloir épargner les civils d'Idlib, même là, il y a des nuances. Sur cette question précisément, c'est la Turquie qui est en pointe, et pas par grandeur d'âme. Ankara sait très bien que si catastrophe humanitaire il doit y avoir à Idlib, c'est bien la Turquie qui en subira les conséquences. Les centaines de milliers, voire le million de Syriens d'Idlib qui pourraient fuir les combats n'auront d'autre choix que d'aller se réfugier en Turquie. Une Turquie qui accueille déjà sur son sol plus de 3 millions de réfugiés syriens. Et c'est bien pourquoi le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui vient d'arriver à Téhéran, voudra éviter si possible toute offensive sur l'enclave et tentera de négocier avec ses homologues russes et iraniens le déclenchement d'une opération militaire la plus restreinte possible. Alors a priori, on ne voit pas vraiment pourquoi russes et iraniens, les alliés de Bachar el-Assad et les principaux sponsors de l'offensive à venir, pourraient accepter de retenir leur coup, sinon pour complaire à Ankara. Mais justement, le sommet de Téhéran de ce vendredi ne sera pas uniquement consacré à Idlib. Les présidents russes et iraniens doivent également y négocier avec leur homologue turc quelques accords commerciaux, notamment d'hydrocarbures. L'Iran pourrait ainsi accepter d'être payé en monnaie turque plutôt qu'en dollars, ce qui permettrait aux Turcs de court-circuiter d'éventuelles sanctions secondaires en novembre prochain, quand les sanctions américaines touchant le commerce des hydrocarbures iraniens entreront en vigueur. Vous le voyez, le sort d'Idlib pourrait donc aussi se négocier aujourd'hui à Téhéran en espèces sonnantes et très ou en baril de pétrole.
Merci Eric Biegala. S'agissant de l'autre guerre, cette fois-ci celle qui, de l'aveu même de l'ONU, constitue la pire crise humanitaire du monde, la guerre au Yémen, là encore, les pourparlers ressemblent d'ores et déjà à un processus mort-né. Les discussions organisées à Genève par les Nations Unies risquent de tourner court. Hier, la délégation gouvernementale a fait savoir qu'elle quitterait la table des négociations si la délégation des rebelles chiites houthis n'arrivait pas d'ici ce soir. Un épisode, quoi qu'il en soit, symptomatique du chaos qui depuis 3 ans règne au Yémen, où la population est aujourd'hui non seulement victime des bombes, mais aussi en proie à la famine et aux épidémies. En Afghanistan, un cessez-le-feu sans précédent cet été avait nourri l'espoir que les négociations pourraient mettre un terme au combat depuis une récente vague d'attaques perpétrées par les talibans, mais aussi le groupe État islamique a pour le moins gravement entamé cet optimisme. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain à la défense, Jim Mattis, est arrivé à Kaboul pour une visite surprise au cours de laquelle il doit rencontrer le président afghan ainsi que le nouveau commandant des forces américaines et de l'OTAN. Autre pièce de ce puzzle éclaté que constitue aujourd'hui le monde arabo-musulman, l'Irak. Voilà plusieurs semaines maintenant que le sud du pays, en particulier la province de Bassora, bastion de la communauté chiite, est traversé par des manifestations sur fond de contestation sociale contre la déliquescence des services publics, les coupures d'électricité et plus largement la corruption. Or, depuis lundi, les affrontements avec les forces de sécurité ont tourné en heurts violents. On compte déjà une dizaine de morts. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Et pour bien comprendre la nature de ces manifestations, il faut les replacer dans le contexte politique.
Oui, il y a d'abord eu cette lenteur à installer lundi le nouveau Parlement, alors que les élections législatives remontent au 12 mai. Si un recomptage a confirmé la victoire du mouvement mené par le leader chiite, Muqtada Sadr, aucun parti n'a pour autant de majorité pour gouverner seul. Et c'est là que se jouent actuellement les efforts en coulisses pour former une coalition gouvernementale. Le Premier ministre sortant, Haïdar El-Abadi, tente d'obtenir un second mandat en s'alliant avec le leader chiite. D'autres formations proches de l'ancien chef du gouvernement, Nouri El-Maliki, s'activent également à la recherche d'alliances. Bref, des consultations, beaucoup de divergences politiques et une population toujours excédée par l'incurie des responsables du pays. De grandes émeutes ont éclaté cet été dans plusieurs régions, dont la plus symbolique, Bassora. C'est une province pétrolière. Or, les habitants de cette ville riche réclament de l'emploi, mais plus important encore, pour eux, ils dénoncent l'incapacité des dirigeants à assurer les services de base comme l'eau, l'électricité. Conséquence de cette situation, une crise sanitaire qui a conduit près de 30 000 personnes à l'hôpital. À Bassora, les protestataires s'en sont pris au siège du gouvernorat, mais aussi à plusieurs représentations de partis et de groupes armés chiites, dont ceux de l'organisation Badr, soutenue par l'Iran et dont la liste est arrivée seconde aux législatives. Muqtada Sadr, lui, suit de très près les protestations. L'homme s'est fait depuis quelques années déjà le porte-parole des manifestants et de la lutte contre la corruption. « Nous serons intransigeants, soyez prêts », lançait-il hier. C'est pratiquement après son appel que le Parlement a décidé de se réunir demain en présence du Premier ministre sortant El-Abadi pour examiner la situation.
Merci Nabila Hamel. Au Brésil, le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori du premier tour de la prochaine présidentielle depuis l'invalidation de la candidature de Lula, a été opéré d'urgence hier après avoir été poignardé en pleine campagne par un militant de gauche. Il est désormais dans un état stable mais aurait pu succomber à ses blessures, ont précisé les autorités médicales. Jair Bolsonaro, 63 ans, est un personnage controversé qui a notamment vanté publiquement les mérites de la junte militaire au Brésil, dont il a même regretté qu'elle n'ait pas tué plus de monde à l'époque de la dictature. Le dernier bilan du puissant séisme qui a frappé hier l'île d'Hokkaido dans le nord du Japon s'est alourdi à 16 morts. 26 personnes sont toujours portées disparues. Les bons chiffres de la production industrielle en France, selon les données publiées aujourd'hui par l'INSEE, elle a poursuivi en juillet son rebond, progressant de 0,7% pour afficher son meilleur niveau depuis la fin 2017. Le déficit budgétaire s'est lui réduit de 1,1 milliard d'euros en juillet par rapport au même mois l'an dernier. Un recul attribué à des effets calendaires puisque les dépenses du budget général ont, elles, augmenté de plus de 4 milliards d'euros en un an. Enfin, le déficit commercial s'est contracté à 3,49 milliards d'euros en juillet, son plus bas niveau depuis décembre. On l'appelle le cartel du matériel électrique ou quand derrière les discours rabâchés sur les vertus de la concurrence se cachent aussi parfois les dérives du capitalisme. Hier, les fabricants et distributeurs de matériel électrique, Legrand, Rexel, Sonepar et Schneider Electric ont tous été l'objet de perquisitions. Cela fait suite à une enquête ouverte cet été après que le site Mediapart avait fait état d'une entente occulte entre tous ces groupes en limitant la concurrence. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Toutes ces entreprises sont, entre autres choses, soupçonnées de faux et usage de faux, d'abus de confiance, de blanchiment, de fraude fiscale ou bien encore de corruption d'agents.
Oui, c'est une affaire caractéristique de ces marchés où l'on trouve beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, un marché d'oligopole. Et il se trouve qu'en France, le marché du matériel électrique en est un. Un marché donc dominé par deux géants fabricants, Schneider Electric et Legrand, et deux géants distributeurs, Sonepar et Rexel. Et ces quatre géants se sont entendus sur un système qu'on qualifie de prix dérogé. Explication. Dans un système de libre concurrence, le fabricant vend son matériel au distributeur à un prix de gros négocié. Le distributeur revend ensuite son matériel au prix qu'il souhaite pour se faire la marge qu'il souhaite. Dans un système de prix dérogé, en revanche, le fabricant oblige le distributeur à vendre son matériel à un prix défini. Il contrôle donc le prix de vente final, ce qui est une atteinte au droit de la concurrence et empêche une possible baisse des prix. Quant au distributeur, il accepte de ne plus contrôler son prix de vente car il reçoit en sous-main une compensation financière du fabricant. Un système mis en place depuis très très longtemps, depuis les années 70 et chez Schneider Electric notamment, mais qui a fini par fuiter car il s'est retourné contre ceux qu'il avait mis en place. En effet, l'un des distributeurs, Sonépar, s'est mis à surfacturer Schneider et Legrand à une ampleur industrielle, c'est-à-dire qu'il s'est mis à réclamer des montants énormes de compensation sur des produits qui n'avaient en fait jamais été vendus. Quand Schneider a découvert le poteau rose, il ne l'a pas dénoncé. Pourquoi ? Parce qu'il aurait alors fallu révéler ces pratiques d'entente sur les prix qui sont toujours en vigueur à ce jour.
Merci Anne-Laure Chouin. Une semaine tout juste après Valérie Pécresse, au tour de Marine Le Pen d'arpenter aujourd'hui les allées de la foire agricole de Châlons en Champagne pour y effectuer sa rentrée politique. Une rentrée marquée notamment par les difficultés financières de son mouvement, le Rassemblement National, lequel aurait été contraint de fermer d'ores et déjà près d'un tiers de ses permanences électorales. Autre rentrée politique aujourd'hui, surtout nouveau rendez-vous pour la gauche à Marseille, deux semaines après les amphis d'été de la France Insoumise. Cette fois-ci, c'est l'eurodéputé socialiste Emmanuel Morel qui réunit les représentants de la plateforme Nos Causes Communes, lancée au printemps dernier par l'aile gauche du Parti Socialiste et le MRC, Mouvement Républicain et Citoyen. Alors Jean-Luc Mélenchon y sera présent dimanche, invité à participer à une conférence sur la souveraineté populaire face au marché, avec en toile de fond, bien sûr, les élections européennes. En clair, Sophie Delpont, Emmanuel Morel espère préparer ni plus ni moins qu'une future union des gauches.
Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, lance tout de suite Emmanuel Morel à propos de son rendez-vous marseillais. Mais le pas de deux continue bien entre le représentant de l'aile gauche du PS et le chef de file de la France Insoumise. L'eurodéputé espère faire de ce moment celui d'une future union des gauches et non pas mettre l'accent sur son potentiel ralliement à la France Insoumise. Le lieu est le même que celui des amphis d'été LFI il y a 15 jours, le parc Chano. Oui, mais c'est le fruit du hasard, tient à préciser Emmanuel Morel, qui insiste sur la présence du numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, du député communiste Pierre Dharréville et de représentants du mouvement Génération notamment, en plus des socialistes. Benoît Hamon, lui, n'a pas été invité pour éviter toute tension qui pourrait ternir l'image d'une gauche plus apaisée, sinon réconciliée, autour de combats communs, notamment la future bataille des retraites. Pour Emmanuel Morel, ce rendez-vous est l'occasion de faire pression sur le PS pour tenter d'infléchir sa ligne, alors que la France Insoumise lui promet une place éligible sur sa liste aux élections européennes. De son côté, Jean-Luc Mélenchon peut ainsi apparaître comme la figure centrale de l'opposition, mais un chef de file ouvert au dialogue, en s'offrant peut-être par la suite le ralliement de l'eurodéputé qui avait réuni 19% des voix au dernier congrès du PS et en siphonnant au passage et en douceur le Parti Socialiste.
Épreuve qu'en politique, l'union n'est décidément pas toujours facile, y compris dans sa propre famille. Hier, la députée La République En Marche, Yael Braun-Pivet, avait finalement renoncé à briguer le perchoir de l'Assemblée nationale. Un renoncement en forme surtout de recadrage pour l'actuelle présidente de la Commission des lois, laquelle a déclaré se rallier à la candidature de Richard Ferrand, au sujet duquel elle avait pourtant déclaré quelques heures plus tôt, à peine, je cite, qu'il n'incarnait pas le renouveau. Quoi qu'il en soit, quatre candidats restent donc en lice. Le président du groupe, l'AREM au Palais Bourbon, donc Richard Ferrand, le député du Tarn, Philippe Folliot, et puis deux femmes, l'ex-secrétaire d'État Barbara Pompili, la députée de l'Isère, Sandra Motin. La Suède va-t-elle à son tour emprunter le chemin aussi risqué que grossier emprunté ces deux dernières années en Italie, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas? Avec près de 20% des intentions de vote, le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, est annoncé comme le grand vainqueur possible des législatives organisées dimanche. Marie-Pierre Vérot, vous êtes notre envoyée spéciale en Suède à l'occasion de ce scrutin. Pour commencer, peut-être, pouvez-vous nous présenter qui sont ces fameux démocrates de Suède, cette formation xénophobe, anti-immigration, nationaliste, sans oublier europhobe, créée il y a déjà 30 ans et dont tout le monde a l'air de penser donc qu'il pourrait devenir le premier parti du pays.
Eh bien, le clip de campagne des démocrates de Suède est sans doute le plus explicite.
Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media.
Une musique anxiogène, des images de voitures qui brûlent, de policiers en tenue anti-émeute, des groupes d'hommes fuyant, des femmes en pleurs, de jeunes immigrés ou demandeurs d'asile, une mosquée et un message clairement énoncé. Vous, les sociodémocrates, vous, les libéraux et vous, les médias suédois, aviez tort. L'immigration de masse n'est pas profitable. Vous avez créé une Suède dans laquelle le système d'aide sociale est en train de s'effondrer. Une Suède où les femmes sont violées par des individus ou par des gangs, où les filles sont mutilées et mariées contre leur gré. Dans certaines parties de notre pays, il y a déjà une guerre civile entre des gangs rivaux. La terreur est désormais une réalité en Suède. Le clivage n'est pas entre la gauche et la droite, entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes. C'est un conflit entre ceux qui détruisent notre pays et ceux qui œuvrent à le sauver. Cette rhétorique, cet amalgame entre immigration et insécurité, on les retrouve dans d'autres partis européens, comme celui de Viktor Orban en Hongrie par exemple. Les étrangers obsèdent les démocrates de Suède et leurs électeurs. Il faut savoir que la Suède est l'un des pays, sinon le pays européen, qui a le plus accueilli de demandeurs d'asile par habitant en 2015. 160 000 pour moins de 10 millions d'habitants, 250 000 en deux ans. L'immigration est désormais la première préoccupation d'une majorité de Suédois. Et nombre d'entre eux se tournent vers le parti qui porte haut ces questions. Parti qui a réussi aujourd'hui à se dédiaboliser en écartant les dirigeants pro-nazis ou racistes des débuts et qui en outre défend la nation suédoise.
Alors, comment expliquer, Marie-Pierre, cette montée de l'extrême droite dans un pays qui connaît par ailleurs une économie florissante ?
Oui, les indicateurs macroéconomiques sont bons. 3% de croissance, un chômage au plus bas depuis 10 ans, un peu moins de 7%, un budget en excédent. Mais les inégalités se creusent et surtout, une part croissante de la population suédoise redoute de perdre son modèle social, cet état-providence. Déjà, le système de santé, donné en exemple, se grippe. La ségrégation augmente, les écoles manquent d'enseignants. D'ailleurs, les électeurs des démocrates de Suède partagent un sentiment d'abandon par l'État, d'insécurité. Ils voient dans les étrangers une menace économique et culturelle. Ce n'est donc pas un simple discours xénophobe qui fait recette, mais un malaise à la fois identitaire et social plus profond qui s'exprime.
Merci Marie-Pierre Véraud. Alors on l'aura compris, la crise migratoire et la décision de la Suède en 2015 d'ouvrir ses portes aux réfugiés expliquent en grande partie ce bouleversement sans précédent du puzzle électoral suédois. C'est d'ailleurs peu ou prou le même scénario qui est à l'œuvre aujourd'hui en Allemagne où la chancelière se retrouve de nouveau fragilisée au sein de sa coalition. Et c'est justement pour consolider son arc progressiste en faveur, face aux nationalistes anti-migrants qui progressent partout en Europe jusqu'au cœur donc du gouvernement allemand qu'Emmanuel Macron déjà en campagne pour les européennes, rencontrera aujourd'hui à Marseille Angela Merkel. Voilà qui nous conduit tout naturellement et comme chaque vendredi à présent à ouvrir notre page Europe. Invité aujourd'hui Philippe Lamberts, eurodéputé belge et coprésident du groupe écologiste au Parlement européen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Annabelle Grolier, bonjour.
Bonjour.
Une première question, monsieur Lamberts, mercredi prochain, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, fera son dernier discours de rentrée sur l'état de l'Europe. Alors selon vous, dans quel état justement est l'Europe aujourd'hui ?
Ce n'est pas un état très brillant, en tout cas, si ce qui est à la base de l'Europe, c'est la défense de la dignité humaine et cette idée que les conflits doivent être résolus entre nous par la voie de la négociation, ben on constate plutôt des avancées de la logique du repli sur soi. Et ça, ce n'est pas vrai qu'en Suède, comme votre reportage le montrait, mais en mince endroit d'Europe, je rappelle même qu'à l'occasion de la présidentielle, Les candidats plutôt eurosceptiques représentaient la moitié électorat en France. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant parce qu'en fait, l'Europe, c'est d'abord une idée. C'est l'idée que nous sommes un petit nombre de citoyens. On représente 5-7% de la population du monde. On habite 2% des terres émergées. Et en fait, on n'a pas le choix. Nous habitons un confetti. Et si nous voulons vivre ensemble pacifiquement, ben, il faut être capable de vivre dans la différence et de gérer ça pacifiquement. Et voilà, ces sentiments-là qui est en recul, cette idée-là qui est en recul, c'est ce que j'ai dit à Jean-Claude Juncker hier quand nous l'avons rencontré, les présidents de groupe, en vue de ce discours sur l'état de l'Union. Je ne sais pas quel sera son discours, mais en tout cas, c'était notre message.
Une question d'Annabelle Grolier.
Monsieur Lamberts, en tant que président du groupe écologiste au Parlement européen, groupe qui, rappelons-le, compte 52 eurodéputés sur 751, comment avez-vous perçu, vous, la démission de Nicolas Hulot ?
Mais je crois que Nicolas Hulot a eu deux fois du courage. Il a eu une première fois du courage en acceptant la main tendue par Emmanuel Macron, qui n'avait absolument pas fait campagne sur la transition écologique, mais il a accepté de mettre en jeu son immense popularité en France pour faire avancer la cause de la transition. Je pense qu'il s'y est donné corps et âme pendant 15 mois. Il s'est donc donné du temps. Et il a eu une deuxième fois du courage, c'est de constater que malgré cet engagement, les orientations fixées par le président Macron, par son Premier ministre, et je dirais au-delà de cela par la technostructure française, rendaient impossible d'engager le pays véritablement dans la transition. Et donc, il a eu ce courage de d'un moment, appeler les choses par leur nom et dire qu'il fallait choisir le « en même temps », c'est en fait quelque part une imposture.
Alors justement, vous avez succédé à Daniel Cohn-Bendit à la tête du groupe des Verts. Daniel Cohn-Bendit qui œuvre en coulisses pour obtenir le ralliement des écologistes à la liste La République En Marche. Mais vous, vous n'avez pas l'air de partager cet avis.
Bah, écoutez, après ce que Nicolas Hulot a tenté de faire pendant 15 mois et après son départ, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut encore défendre de manière crédible l'idée que La République En Marche, que son chef, seul maître après Dieu, pourrait incarner l'engagement dans la transition écologique. Ça n'est pas vrai, c'est tout simplement pas vrai. Et donc, voilà, c'est les opinions de Danny Cohn-Bendit, c'est très bien. Il est venu essayer de vendre cela au groupe des Verts en décembre dernier, sans succès. Et je ne m'attends pas du tout à ce que les écologistes rejoignent la dynamique La République En Marche.
Alors Emmanuel Macron veut endosser le rôle de principal opposant aux nationalistes. Est-ce que vous ne craignez pas justement le risque d'une bipolarisation de la campagne européenne entre les nationalistes et les forces progressistes ? Est-ce que les Verts ne pourraient-ils pas en faire les frais ?
Si, bien sûr, ça, la stratégie est cousue de fil blanc. Clairement, Emmanuel Macron doit tenter de sauver sa présidence et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu mal en point et donc il a tout à gagner d'une bipolarisation, tout comme d'ailleurs Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui veulent l'un et l'autre se profiler comme le premier opposant à Emmanuel Macron. En fait, je pense que la stratégie d'Emmanuel Macron est délétère pour le projet européen parce qu'elle accrédite la thèse qu'il n'y a qu'une seule variante du projet européen, c'est la variante qui consiste à faire du projet européen l'adaptation, le véhicule de l'adaptation de l'Europe à la mondialisation néolibérale. C'est cela qu'incarne Emmanuel Macron et c'est cela que dénoncent tant Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen en France. Et donc nous voulons incarner une autre orientation pour le projet européen. Nous ne sommes pas moins pro-européens que Emmanuel Macron, mais nous sommes par contre résolument opposés à ce projet qui vise en fait à asservir toute la société et la planète à la logique de marché, qui est le projet de la mondialisation néolibérale.
Et dans la peur donc générale de ce sujet de l'immigration, comment vous allez vous faire entendre, vous les Verts, sur la transition par exemple écologique, qui est votre cheval de bataille ?
Mais le sujet asile et migration est un vrai sujet, donc je pense qu'il faut éviter de le considérer comme tout à fait accessoire. Néanmoins, il faut le remettre à sa juste dimension. Autrement dit, quelques centaines de milliers de personnes arrivent en Europe chaque année. C'est moins qu'avant la crise financière. Intégrer des personnes qui sont différentes dans nos sociétés, ça ne va pas de soi, mais il y a une différence entre quelque chose qui ne va pas de soi et quelque chose qui est impossible. Et donc notre message, c'est prenons ce défi à bras-le-corps, les réponses simplistes, c'est-à-dire l'Europe ouverte à tous les vents, tout comme l'Europe forteresse, sont des réponses qui sont non opératoires. Les seules réponses possibles sont des réponses que nous pouvons apporter, nous les Européens, tous ensemble. Si la Suède se trouve dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, je veux dire au niveau de l'opinion publique, ou l'Allemagne ou l'Autriche, je relève que ce sont trois pays qui ont été laissés seuls dans l'accueil des réfugiés. Donc bien sûr, vous avez les pays frontaliers, l'Espagne, l'Italie, Malte, la Grèce bien sûr, qui ont été abandonnés à leur sort, mais quand les personnes passaient par ces pays-là, c'était pour arriver dans des pays qui ont fait preuve jusque maintenant d'une volonté d'accueillir. Mais les autres États membres, et la France, la Belgique, le Benelux en général, par exemple, des pays riches, n'ont pas emboîté le pas. Et donc au lieu d'accueillir de manière collective et donc de répartir l'effort d'accueil entre tous les États européens, ben quelque part, on a laissé les volontaires aller seuls au front. Et donc, avec pour résultat aujourd'hui que les difficultés de l'intégration apparaissent et que ces difficultés, si elles ne sont pas insurmontables, sont néanmoins réelles. Et donc, il faut pouvoir y faire face. Je pense qu'elles seraient bien atténuées si nous prenions le défi à bras-le-corps tous ensemble.
Et on terminera là-dessus. Merci Philippe Lamberts d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui depuis le Parlement européen où vous co-présidez le groupe écologiste et merci à Annabelle Grelier. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui marqué par des averses sur les reliefs. Tandis que le soleil parviendra à s'imposer sur le pourtour méditerranéen, les températures cet après-midi, elles seront comprises entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.